Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les nouvelles couleurs du Parlement européen et du paysage politique français, plus contrastées à Bruxelles et à Strasbourg, où les deux grands partis européens régressent face à la poussée des Verts, des populistes et des libéraux. Les Verts, deuxième force en Allemagne, nous serons à Berlin dans un instant, à Rome, où Matteo Salvini emporte la mise, à Bruxelles, pour peser les nouveaux équilibres dans l'hémicycle et parler de la bataille de la Commission. Et puis en France, ici, évidemment, où la recomposition en cours depuis la présidentielle s'est encore accentuée. Rassemblement national en tête, suivi de près par La République En Marche. Effondrement de la droite LR et de la France Insoumise. Et plutôt bonne surprise pour la liste de Raphaël Glucksmann analyse avec Cyril Graziani et réaction à suivre. Puis avec vos invités dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, c'est la suite de ce 7-9 spécial avec Nicolas B pour le Rassemblement National, Pascal Canfin pour La République En Marche et Geoffroy Didier pour Les Républicains.
France Inter. Il y a donc incontestablement plus de verts sur la photo européenne. Ce matin, 70 députés écolos au Parlement. Il n'était qu'une cinquantaine jusque-là, renforcés par les bons résultats de la liste Jadot en France, par les Green britanniques et surtout par les Grünen allemands. À la deuxième place, derrière la CDU-CSU d'Angela Merkel avec plus de 20% des voix. Et partout, ce sont les jeunes qui ont fait la différence. Ludovic Piétenu l'a constaté à Berlin.
Une soirée électorale en plein air pour les Verts allemands. Ils célèbrent leur score sous les arbres au cœur de Berlin. Il y a là beaucoup de jeunes à l'image de leur électorat. 36% de ceux qui ont voté pour la première fois ont choisi les Verts. 33% des 18-29 ans. L'explication est simple pour la tête de liste Sven Giegold.
Il y a eu pendant la campagne un intérêt énorme dans les écoles. C'est le résultat du grand mouvement international pour le climat et aussi le mouvement pour les libertés à l'espace de l'Internet.
Les Verts sont en tête dans plusieurs grandes villes, à Berlin, Munich, Francfort et Hambourg. Ils s'installent comme la deuxième force politique du pays, derrière les conservateurs, dont fait partie Joachim Bitterlich, ancien conseiller d'Helmut Kohl. C'est juste en face, depuis son balcon, qu'il observe la fête électorale des Verts.
En allemand, on dit « eine Wohlfühlpartei », un parti dans lequel on se sent bien. Et pour les jeunes qui veulent leur bien-être, ça correspond exactement à l'horizon d'attente de cette jeunesse. Bien joué.
Les Verts, déjà bien ancrés dans la vie politique allemande, ne sont plus très loin de devenir un parti de masse, un Volkspartei, comme on dit en Allemagne, un parti populaire, à force de tailler des croupières aux sociaux-démocrates comme aux conservateurs. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Un Parlement plus vert, c'est donc l'une des nouveautés de ce scrutin qui marque la fin de la cogestion entre la droite et les sociaux-démocrates. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Bruxelles, les deux groupes historiques du Parlement, Angélique, arrivent toujours en tête, mais nettement moins fort qu'avant.
Oui, avec 180 sièges environ pour la droite et 150 pour la gauche, il leur manque désormais une cinquantaine de sièges pour avoir la majorité. Il leur faut donc composer avec la troisième force du Parlement, qui sera celle des centristes et des libéraux, ce nouveau pôle formé avec les élus de La République En Marche, qui comptera, selon les estimations, une centaine de membres. Les Verts, quatrième famille politique, vous l'avez dit, font un très bon score avec 12% des voix. Ils escomptent bien peser, eux aussi, dans la discussion qui va s'ouvrir très vite entre ces quatre groupes pro-européens autour d'un programme pour les cinq ans à venir. Du côté des eurosceptiques et de l'extrême droite, la poussée est nette, certes, mais contenue. Les trois groupes affichent 170 sièges environ, mais attention, ils vont totalement se réorganiser et ils ne font pas le poids pour revendiquer donc le premier rôle à Strasbourg, comme ils l'avaient annoncé.
Vous restez avec nous, Angélique Bouin, vous venez de parler de l'avancée des populistes qui ne raflent donc pas la mise, mais qui progresse à l'image du raz-de-marée Salvini hier en Italie. Il remporte plus de 30% des suffrages, largement devant le mouvement 5 étoiles. Mathilde Imberti est à Rome pour France Inter.
Il est 1h du matin quand le patron de la Ligue s'exprime en conférence de presse. Matteo Salvini brandit un crucifix, évoque les racines chrétiennes de l'Europe, remercie ses électeurs et ceux de ses alliés.
La Ligue est le premier parti d'Italie, mais ce n'est pas le seul. Marine Le Pen est première en France, Nigel Farage en Grande-Bretagne. C'est le signe d'une Europe qui change, qui n'en peut plus d'être l'esclave des pouvoirs forts, de l'élite, de la finance et des multinationales. Notre travail va redoubler pour remettre au centre le droit du travail, le droit à la vie, le droit à la sécurité et aussi les valeurs. Une nouvelle Europe est née.
En Italie, la poussée de la Ligue est spectaculaire par rapport à ses 17% aux élections générales de 2018 et aux 6 petits pourcents des élections européennes de 2014. Ce score renverse les équilibres au sein sein du gouvernement. L'allié de la Ligue dans l'exécutif, le mouvement 5 étoiles est quasiment éclipsé. Troisième parti seulement à l'issue de ce scrutin européen. Il se fait dépasser par le Parti démocrate, le centre-gauche, qui revient finalement d'une longue traversée du désert. Enfin, autre enseignement, Silvio Berlusconi sombre, la droite modérée disparaît au profit de l'extrême droite. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Et parmi les populistes, le parti du Brexit de Nigel Farage emporte largement le scrutin en Grande-Bretagne, reléguant les conservateurs de Theresa May à la cinquième place avec moins de 8% des voix. Les pro-européens se consoleront là-bas avec le bon score du parti libéral-démocrate qui obtient 20% des suffrages. Dans ces conditions, je reviens vers vous, Angélique Boinvu, la nouvelle physionomie du Parlement, une autre bataille se profile, elle a même déjà commencé, c'est celle des postes stratégiques de l'Union, à commencer par le plus important de tous, l'équivalent du Premier ministre européen, le poste de président de la Commission. Dans un Parlement plus dispersé que jamais, rien n'est écrit, Angélique, et manifestement il va y avoir du sport.
Oui, car il est dit dans le traité de Lisbonne que les chefs d'État et de gouvernement doivent tenir compte du résultat de cette élection dans le choix de leur candidat pour diriger donc la commission. Alors rappelons qu'en 2014, les eurodéputés avaient obtenu que cela soit le chef de file du parti de la famille arrivé en tête qui obtienne ce poste clé. C'était Jean-Claude Juncker pour le PPE. Mais là, le candidat de la droite s'appelle Manfred Weber. Il est allemand, peu connu, sans expérience gouvernementale. Un certain nombre de dirigeants, Emmanuel Macron en tête, n'en veulent vraiment pas. Bras de fer en perspective. La commissaire européenne danoise Margrét Vestager est également sur les rangs en sa qualité de chef de file des libéraux. Le nom de Michel Barnier est cité. On va donc négocier âprement en coulisses dans les prochaines heures qui nous mèneront au dîner des chefs d'État et de gouvernement prévu demain soir.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Merci. Dans le reste de l'Europe, on retiendra la forte poussée de l'extrême droite chez les Flamands en Belgique qui votaient aussi pour élire leur Parlement national. La défaite d'Alexis Tsipras en Grèce, son parti de gauche, a été très largement devancée par la droite. Il annonce donc des législatives anticipées en juin. Au contraire, en Espagne, c'est la gauche de Pedro Sanchez qui l'emporte. L'Espagne, où on votait aussi pour les municipales et où ça n'a pas fonctionné pour Manuel Valls à Barcelone. Il arrive bon quatrième et c'est un indépendantiste qui devrait faire son entrée à la mairie de la deuxième ville d'Espagne.
Il est 8h08 en France maintenant, Florence. Le duel annoncé s'est concrétisé hier soir.
Et oui, le Rassemblement National en tête avec 23,3% des voix selon les dernier chiffre du ministère de l'Intérieur, la liste Renaissance poussée par Emmanuel Macron, moins d'un point derrière. Ça veut dire, Cyril Gradiani, que Marine Le Pen a gagné son pari et que le président a un peu perdu le sien, en tout cas de peu.
Et hier soir à l'Élysée, on parlait de déception. Le président voulait être devant le Rassemblement National. Avoue, une proche d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dès l'annonce des résultats, a jubilé. Elle avait demandé la démission du président de la République en cas de défaite. Et bien hier, elle a revu ses ambitions à la baisse.
Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir. Il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif.
Un scénario qui n'est pas envisagé à l'Élysée. En revanche, cette bipolarisation est clairement actée par Emmanuel Macron. La recomposition est consolidée, confiait-il en privé hier soir. Peu avant 21h, Édouard Philippe, lui, a fait le bilan de cette soirée.
Je ne veux pas banaliser ce résultat de l'extrême droite qui, élection après élection, s'enracine dans le paysage politique français au point d'en devenir l'une des grandes forces politiques. Ce message est fort et nous l'avons reçu 5 sur 5. L'heure est donc à l'action. Car les Français nous jugeront au final sur une seule chose, les résultats.
Le Premier ministre et sa ligne de centre-droit sortent plutôt renforcés de cette élection. Les transferts de voix des Républicains vers la REM sont clairs. Je serai à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité, a conclu Édouard Philippe. Mais c'est un projet qui devra clairement se verdir car les écolos ont piqué des voix à la liste Renaissance. Édouard Philippe, l'ancien de chez Areva, devra donc lui aussi accélérer sa transition écologique.
Au-delà du duel au sommet, merci Cyril Gradiani. Ce qui frappe dans les résultats de cette élection, c'est d'abord la participation, plus de 50%, comme ailleurs en Europe, c'est du jamais vu depuis 20 ans. C'est le très bon score d'Europe Écologie Les Verts, 13,4% pour la liste de Yannick Jadot. C'est la déroute de LR, les Républicains républicain à 8,4% des voix. Il y a deux ans, François Fillon avait fait presque 21% à la présidentielle. C'est donc une lourde défaite pour le parti de Laurent Wauquiez, que certains à droite appellent à prendre ses responsabilités. Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, dans sa région, les militants, Christophe Vincent, font bloc derrière leur chef.
Quand les résultats nationaux sont tombés, les militants semblaient sonner. Le président de la Fédération du Rhône, Alexandre Vincendet.
Il y a eu un vrai effet vote utile. Et c'est une petite claque, oui, parce qu'on s'attendait quand même à mieux. Donc après, c'est jamais agréable de faire des scores comme ça. Et quand ça va mal, on essaye de jeter quelqu'un au piranha. J'ai connu ça dans une autre vie, rappelez-vous, il y a 5 ans avec Jean-François Copé. Les militants ne nous pardonneraient pas de nouvelles divisions.
Le député LR des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, souhaite que Laurent Wauquiez démissionne, comme Nicolas Sarkozy il y a 20 ans. Mais Nicole et Marc, militants lyonnais, le défendent.
Je trouve que Laurent Wauquiez est quelqu'un de sensationnel, que Bellamy était formidable. Et donc on a eu un espoir. Vous savez, on a pris un sacré coup sur la tête avec ce qui s'est passé au présidentiel. Donc on s'est tous fait avoir jusqu'au 3. On a ce qu'on mérite, mais nous allons remonter.
C'est injuste les attaques qui sont faites contre Laurent Wauquiez par des gens qui ne le connaissent pas. Je trouve que c'est très dommage. Je vois pas pourquoi il s'en irait. Laurent Wauquiez fait son job. On ne peut pas lui reprocher.
À moins d'un an des municipales, les Républicains lyonnais serrent les rangs. Ils espèrent profiter des divisions au sein d'En Marche sur le cas Colomb. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et l'autre défaite de la soirée, c'est celle de la France Insoumise qui s'effondre comme l'ensemble de l'extrême gauche européenne. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a seulement 6,3% des voix, il en faisait plus de 19 à la présidentielle et 11 aux législatives. C'est donc la mine sombre et la voix blanche que Jean-Luc Mélenchon a pris la parole hier soir.
Notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts. Quoi qu'il en soit, ce résultat assure la présence des insoumis au Parlement européen. Nous allons continuer la bataille contre les menaces écologiques qui s'avancent et les injustices sociales qui s'aggravent. Nous saurons assumer nos responsabilités. C'est l'heure des combats et des caractères. La France en a toujours disposé en abondance. Je forme le vœu qu'elle sache se manifester et se rassembler pour parvenir aux objectifs qu'elle doit se donner. Libérer une bonne fois le pays, le système de notre vie, de la pesanteur économique, anti-écologique qui pèse sur lui et des ombres que projette sur son destin l'extrême droite.
Même score de 6,3% pour Raphaël Glucksmann et sa liste PS Place Publique, mais pour lui ça n'est pas une défaite vu les prévisions des sondages, ce serait même la preuve que la gauche n'est pas morte.
Nous avons fait un score plus élevé que ce qui nous était annoncé et promis. Ce soir, eh bien, le temps est à la responsabilité au travail, parce que le Rassemblement national est la première force politique du pays, parce que, eh bien, le gouvernement qui mène une politique inique et injuste est un moteur de cette expansion du Rassemblement national. Et ensuite, parce que la gauche éparpillée et morcelée n'arrive pas à s'imposer comme une alternative crédible. Et pourtant, ce qui s'est passé ce soir, c'est un message extrêmement clair. La gauche en France n'est pas morte. Contrairement à ce qu'on annonçait, il y a une aspiration à la gauche. Il y a une volonté de gauche. Simplement, l'éparpillement et le morcellement, eh bien, l'empêchent de devenir une alternative crédible. Alors, il faudra reprendre le bâton de pèlerin qui était le nôtre avant les élections européennes et chercher à rassembler enfin la gauche.
La gauche de Raphaël Glucksmann et du Parti Socialiste épargné par le désastre qui frappe Benoît Hamon et sa liste Génération. Il n'enverra aucun député à Bruxelles et à Strasbourg avec 3,3% des voix de tout cela. On reparle évidemment juste après ce journal avec vos invités Nicolas et puis à la mi-journée dans un 13-14 spécial concocté par Bruno Duvic.
Et dans le reste de l'actualité, Florence, voilà qui rebat les cartes mondiales du secteur automobile.
Et oui, Renault vient d'annoncer avoir reçu une proposition de fusion avec l'italo-américain Fiat Chrysler, ce qui donnerait un ensemble à 16 millions de véhicules devant l'alliance Renault-Nissan. On attend maintenant la réaction des Japonais de Nissan à Tokyo. Et voilà une bataille économique et médicale maintenant. La bataille de l'homéopathie, entamée il y a 10 jours par la Haute Autorité de Santé qui se prononce pour son déremboursement par la Sécurité sociale. Les 3 laboratoires concernés, Boiron, Velleda, Lenning, avaient jusqu'à aujourd'hui pour réagir. On imagine qu'ils vont demander à être entendus par cette Haute Autorité. En tout cas, depuis 10 jours, ils ont fourbi toutes leurs armes, Véronique Julia.
600 000 signatures sur la pétition « Mon homéo, mon choix » lancée début avril par les laboratoires, les professionnels et les associations qui soutiennent l'homéopathie, des soutiens sportifs, Camille Lacour notamment, des influenceuses payées sur Instagram pour poser avec leur bébé en insistant sur les bienfaits de l'homéopathie pendant la grossesse. Les laboratoires et surtout le plus gros des trois, Boiron, communiquent à tour de bras depuis des semaines pour gagner la bataille de l'opinion et rappeler au passage quelques-uns de leurs messages sanitaires. L'homéopathie limiterait notamment, disent-ils, le recours aux antibiotiques ainsi qu'aux anti-inflammatoires et psychotropes, induisant ainsi des économies pour le système de santé. Des politiques se sont engagées aussi. L'ancien ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a signé la pétition. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, a envoyé un mail pour défendre auprès de l'Élysée les emplois potentiellement menacés dans sa région où est implanté Boiron. En cas de nouvelle audition par la Haute Autorité de Santé, les laboratoires brandiront une fois encore les quelques 80 études attestant, disent-ils, de l'efficacité thérapeutique de leurs produits. Un recours pour irrégularité de procédure après une fuite dans les médias concernant le projet d'avis de la Haute Autorité de Santé n'est pas exclu également.
Véronique Julia, et eux se soignent-ils à l'homéopathie? Raphaël Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Joe Wilfried Tsonga entrent en compétition aujourd'hui à Roland-Garros après la qualification facile hier de Roger Federer et de Nicolas Mahut, Kristina Mladenovic aussi pour les Français.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, un ciel bien gris ce matin.
Et oui, à cause d'une perturbation pas très active quand même qui traverse le pays, qu'on retrouve ce matin les côtes aquitaines en remontant sur le centre, l'Île-de-France, la Champagne avec quelques gouttes ou une averse possible. Un ciel donc très nuageux des Pyrénées également au Massif central à l'Alsace. En revanche, le ciel s'éclaircit dès ce matin de la Bretagne au Pays de la Loire, à la Normandie, au Nord-Pas-de-Calais, autour de la Méditerranée et sur la façade est. Votre matinée sera ensoleillée avec une tramontane très forte dans le golfe du Lion et du Massif Mistral dans la vallée du Rhône. Sur la Corse, en revanche, ça reste pluvieux ce matin et les températures sont très douces grâce à la couverture nuageuse.
Et cet après-midi, un peu plus de pluie sur les deux tiers du pays.
Et oui, des côtes aquitaines en remontant sur le Massif central à la Bourgogne, mais seront épargnées les régions proches de la Manche, de la Bretagne à la Normandie jusqu'au nord, mais aussi du Languedoc au Roussillon, Bouches-du-Rhône et dans la vallée du Rhône. Mais le temps restera orageux de la Corse en remontant sur les Alpes du Sud. Et cet après-midi, on sera 3-5 degrés en dessous des normales de saison, surtout dans le sud-ouest où il ne fera pas plus de 17 à Toulouse, 16 à Aurillac, 19 à Rouen, 20 à Lille, comptez 21 à Paris comme à Nantes, 23 à Lyon, mais estival à Marseille avec 27 et 28 à Nîmes. Mais patience au nord, nous allons passer d'un milieu de semaine presque automnal et pluvieux à un week-end estival, Nicolas, pour tout le monde. Sur la moitié nord, une moyenne de 26, 28 au sud, qui l'eût cru?
Merci Marie-Pierre Planchon.